RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, de Jérôme Rotten et de Bruce Granet, qu'on va parler e-sport dans quelques instants, mais avant cela... Eh ouais, toujours la musique de FIFA. Pour Bruce Granet, bien entendu. Fred Hermel est en direct avec nous dans l'After. Salut mon Fredo.
Hola chicos.
Fred est exceptionnellement avec nous pour l'espace de quelques minutes parce qu'il y a une grosse info qui vient de tomber. Alors même si Jérôme Rotten l'avait déjà annoncé. Il y a plusieurs semaines également. T'en avais parlé également aussi. Alors il y a une vidéo qui a été publiée par Antoine Griezmann il y a quelques
après,
semaines déjà.
Rassure-moi.
Il y a quelques minutes.
Oui,
pardon.
Toujours après toi, Jérôme, bien entendu.
Il a fait la décision 2.
Alors après on va parler du ridicule de la communication de Griezmann.
On a envie c'est de marrant dire, ça, t'en parlais hier pour le coup.
Bah, justement, on en parlait hier soir, c'est pourquoi et Daniel avançait sa déception par rapport à Godin, etc., et son comportement, etc. C'est vrai que il y avait un petit air bizarre à Madrid où il y avait une sorte de, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais à Madrid les gens étaient plutôt pessimistes du côté de l'Atlético, et moi je dois reconnaître que je voulais pas m'avancer parce que avec Griezmann un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et bon finalement ce sera je sais pas de quelle couleur parce que je sais pas dans le club quel club il va aller, peut-être blaugrana, mais aujourd'hui, alors pour résumer, il est allé voir Miguel Angel Gil. Alors Miguel Angel Gil, c'est le fils de Jesús Gil, c'est le grand patron, c'est lui qui dirige. Il y a un président qui s'appelle Cerezo, mais l'actionnaire majoritaire et le grand patron, directeur général du club, c'est Miguel Angel Gil. Et donc Griezmann est allé voir Miguel Angel aujourd'hui et lui a dit « Ma décision est prise, je veux partir du club ». Voilà. Ensuite, bon, la nouvelle a un peu filtré dans les médias ce soir, et très rapidement, Griezmann a fait cette vidéo.
Mais il dit quoi dans la vidéo d'ailleurs?
S'il a fait la décision 2, c'est que c'est déjà acté et signé.
Bah ouais, parce exactement. Qu'il dit quoi dans la vidéo, Fred? Non, on n'a pas pu la voir, c'était en direct pendant l'after.
Oui, mais ce qu'il dit, j'ai pu la voir, j'ai vu Miguel Angel Gil aujourd'hui, j'ai vu le Cholo Simeone, je voulais vous dire, et maintenant, il fallait que je vous dise, vous, supporters d'Atlético, que j'ai besoin d'autres défis, qu'après, toutes ces années ici, j'ai gagné plein de titres, j'ai grandi, etc., mais c'est le moment de connaître d'autres aventures, nanana. Il ne dit pas où il va, mais il annonce qu'il quitte et que sa décision est irrévocable. Donc, au moins c'est clair, au moins l'agonie ne dure pas trop longtemps. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître ça, Griezmann, c'est que la Liga se termine ce week-end, donc l'Atlético a le temps de se retourner. Et ça, c'est important quand même. Sur le marché.
Tu penses que l'Atlético, sur le marché, va se mettre, avec l'argent pris sur le transfert de Griezmann, va essayer d'attirer un joueur, je sais pas, à 100 millions.
On avait parlé de Cavani à l'Atlético il y a pas longtemps.
Cavani, moi j'y crois beaucoup parce que même avant que Cavani signe au PSG, Simeone était déjà derrière.
Non, mais c'est pas à du tout le même Godin... profil. Rien à voir.
Non, c'est pas du tout. Non, mais
tu dis pas, je prends Cavani pour remplacer.
Ça permet Dybala, je crois.
Non, mais
aussi.
Il faut un joueur plus déjà.
Dybala plus
voilà.
Déjà.
Oui, ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi. Mais c'est vrai que Cavani, c'est une vieille. Il y a un vieil intérêt de Simeone. Je vais pas vous cacher que je suis très inquiet pour l'Atlético parce que ils ont quand même perdu.
Pourtant ils ont le blé, hein, ils ont du blé maintenant.
Ils ont du blé. Ouais, mais tu perds Griezmann, tu perds Godin, tu perds Lucas Hernandez qui est pour moi, et pas que pour moi, mais pour tous les gens qui suivent le foot espagnol, le futur très très grand défenseur central européen.
Fred, ce que tu es en train de dire là, de ce qui peut arriver à l'Atlético, on sait également, parce que tu en parles beaucoup, ce qui va arriver au Real, j'ai l'impression qu'on va vivre un des mercatos les plus agités de ces dernières années. Entre le Real qui a besoin de beaucoup renouveler, l'Atlético qui perd,
et le Barça qui a fait des erreurs de casting,
tu viens de parler, le Barça qui doit ajuster son effectif. Là, on parle simplement de l'Espagne, mais en Angleterre, Manchester United, ils doivent tout refaire. Ouais. Chelsea, s'ils perdent Hazard, ils ont besoin de monde. Le Bayern, qui a vu partir Robben Ribéry, va avoir besoin de joueurs devant.
C'est vrai.
Il va y avoir beaucoup de mouvements en Europe.
Ouais. Et c'est vrai que le marché des transferts qui se termine à la fin de l'été, je crois, en Espagne, je crois que ça va être le 2 septembre.
Le PSG a un package Kurzawa, Draxler, Meunier dans le même sac. Tu crois que ça peut intéresser en package?
Un package, à 50, non, mais c'est peut-être bon. Peut-être
package à 50 pour les trois.
Ouais, 50, c'est bien.
Attends, Meunier, pour l'Atlético, pourquoi pas,
hein. Attends, 50 les trois?
Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, c'est pas cher.
Prends, bah, je prends et je
attends,
revends.
C'est pas cher, Draxler dans le lot.
Ah oui.
Bah, je te propose, tu me dis.
50, moi, je prends pas ça cher, bien sûr que je prends.
50, tu dis c'est un bon
oui, carrément, pour les trois, là. Bah, oui.
Oui, si tu prends les trois.
Draxler, moi, je pense, peut en tirer 35-40 et Meunier, tu peux en tirer 25-30.
Ah oui. Mais il reste un an de contrat, quand même, à Meunier.
Moi, je pense.
Meunier, c'est un an de contrat.
Draxler,
moi, si tu fais les trois, si sur les trois, tu touches plus de 50, franchement.
Ouais, parce que sur les trois, c'est acheter deux, un gratuit. Le gratuit, c'est
Alors, pour revenir simplement à Griezmann, toi, Jérôme, tu es sûr qu'il va au Barça?
Sur un lot, c'est comme
ouais, je suis sûr qu'il va au Barça.
Les paquets de gâteaux, ouais. Tu mets toujours.
Alors, justement, moi, ça m'intéresse vachement ça, parce que je pense que ça va être compliqué pour lui. Rappelez-vous, le 6 avril dernier, match au sommet de la Liga, FC Barcelone, Griezmann qui était hué par les 90 000 personnes du Camp Nou, parce que justement,
ils avaient
planté il y a un an. Donc, c'est pas, alors, s'il va au Barça, bien entendu qu'il sera accueilli, mais que ce qu'il va falloir.
Piqué va se charger du marketing, t'inquiète.
Oui, peut-être, oui, mais c'est vrai que ça va être très intéressant de voir l'évolution de Griezmann. Après, je suis persuadé, vu les liens qu'il a avec l'Espagne et les désirs de sa femme, parce qu'on n'oublie pas qu'un footballeur, c'est aussi un couple et c'est aussi une famille, et c'est un choix.
Bah, on en parlait pour Cavani il y a quelques minutes, figure-toi, parce qu'il va être papa à Paris, il est très attaché à la ville, il refait sa vie ici aussi, tu vois. Donc
moi, tu me dis Griezmann à Manchester United, j'ai du mal à y croire, parce que Erika Griezmann ne serait pas. Après, Barcelone, c'est sympa pour vivre aussi, donc elle avait beaucoup pesé la saison dernière pour qu'il reste, mais voilà, moi je pense sincèrement que la destination la plus logique, c'est le Barça. Mais après, ça sera intéressant de voir Griezmann devoir se mettre au service de quelqu'un, parce que quand tu vas au Barça, tu te mets au service de Messi, alors qu'au à l'Atlético, c'était le petit chef, hein. Tout tournait autour de Griezmann. Ça va être intéressant.
Et c'est quoi ça va être de quel ordre le transfert? On a une idée de
120.
Il a une clause.
Il y a pas juste une clause avant.
C'est 120 ou 200 millions. Alors après, il y a des informations divergentes là-dessus. À partir de, est-ce que c'est 120 maintenant et que ça passe à 200 à partir du 1er juillet, ou est-ce que c'est 200 jusqu'au 1er juillet, ça passe à 120?
Je crois que c'est ça, Fred. C'est pour ça qu'ils veulent pas communiquer, et que lui a annoncé son départ, mais qu'il veut pas communiquer la destination tout de suite.
Privé là en ce moment.
Parce que ça sera le 1er juillet à 200 et pas 120 avant.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Oui, bah écoute, après l'Atlético va récupérer de l'argent, mais la situation de Griezmann est voilà. Après, je vais pas vous cacher que je suis un petit peu triste, parce que moi j'aime bien Antoine et que il sort de ma zone, bon, après Barcelone c'est pas loin non plus, hein. Donc je suis content qu'il reste en Espagne, mais je pense quand même qu'il a renoncé un peu trop vite. Il a été tellement déçu de ne pas jouer la Ligue des Champions, la finale au Wanda Metropolitano. Eh oui. Mais il y a quand même une équipe qui peut encore faire des choses au niveau européen, et j'ai l'impression qu'il renonce un peu trop vite. Voilà.
Ok.
C'est peut-être un peu dommage, mais bon, après c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, et l'Atlético. Mais bon, et pour terminer là-dessus, je pense quand même que il y a un moment, il faudra qu'il soit mieux conseillé, parce que après tout le cinéma ridicule qu'il a fait il y a un an après, justement, faire une vidéo pourrie.
Ouais, mais alors attends, Fredo, juste un truc, la vidéo elle est publiée sur le compte officiel de l'Atlético. Donc ça veut dire qu'ils sont complices de ça aussi, c'est pas que sa communication.
S'il dit à un moment, je pense qu'il y a une certaine lassitude.
Non, mais là le club est complice.
Non, mais il n'est pas complice. Le club est mis devant le fait accompli, et je pense que le club en a marre.
Oui, mais ils sont pas obligés de publier la vidéo, c'est ça que je veux dire. Les mecs, ça veut dire qu'il
y a un moment, ils veulent que ça se passe bien, Mais ils ont mis 20 millions. C'est quand même le deuxième joueur le mieux payé d'Espagne après Messi, 20 millions nets après impôts annuels. Donc c'est un salaire qui de 40 millions bruts par an. C'est un truc de malade. Et Griezmann, en fait, je pense qu'il y a une lassitude du côté de l'Atlético qui dit allez, maintenant c'est bon, tu vas pas nous faire le coup tous les ans. Tu veux t'en aller, tu t'en vas, et c'est tout. Donc voilà.
C'est surtout, Fred, en plus, je suis persuadé que le fait de renouer des contacts avec Barcelone l'a relancé. Je pense que même lui s'y attendait pas après la décision prise l'année dernière, et que Barça insiste de nouveau. il s'est peut-être dit bon bah écoute, j'ai laissé passer le train une fois
l'an dernier,
je peux pas une deuxième fois, et encore plus par rapport aux déceptions cette année de la Ligue des Champions avec l'Atlético.
Et en plus, il y a une chose, moi je suis persuadé aussi que la claque énorme que s'est prise le Barça en Ligue des Champions, automatiquement tu annonces Griezmann là, il y a un contre-feu énorme. Voilà.
Mais tu le disais,
une énorme déception.
Tu le disais, et moi quand je suis allé commenter le match à Barcelone en Ligue des Champions, Barcelone Liverpool, c'est exactement ce que les Espagnols disaient, du moins les Catalans. Ils disaient que qui bossent dans la presse et même au club, ils disaient de toute façon, on a maintenant 2-3 mois pour essayer de renverser les socios, parce que l'accueil fait à Griezmann sur le match, et tu en parlais,
a été
incroyable. Comment un joueur aussi fort que Griezmann, il peut accepter ça, parce que là il se dit oh là là, attention, j'arrive dans un club où ils ont encore en travers de la gorge, et à juste titre, ce que j'ai fait l'année dernière. Donc le fait de prendre une énorme claque, une désillusion, une remontada comme ils ont pris à Liverpool, c'est sûr que là ça sert tout le monde, hein, au club.
Oui, parce que finalement tu as un super, parce que faut pas oublier que Griezmann il est numéro 3 sur le il est 3e sur le podium du Ballon d'Or, que ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, et que c'est génial pour le Barça, parce que le Barça s'est planté avec Dembélé, s'est planté avec Coutinho. Ils n'ont pas remplacé Neymar, et c'est vrai que Griezmann dans
l'attaque
du Barça.
Il va peut-être falloir qu'il se penche sur un 9 aussi, hein. Parce que Suarez.
Oui, parce que Luis Suarez.
Bon, ça fatigue aussi. Ouais.
Mais c'est vrai que Messi, Griezmann, ça aussi d'un point de vue des amoureux du football,
comme
ça,
c'est
intéressant de le voir aussi. Ouais. Techniquement, ça va voler très haut. Quoi.
Ah ouais.
Fredo, merci beaucoup pour toutes ces infos, mon Fredo. Merci d'avoir été avec nous.
À très vite, et on vous parlera du prochain club de Griezmann, hein. Mais si on écoute attentivement, et je le fais, Jérôme, faudra attendre le 1er juillet justement, parce que ça coûtera plus cher à ce moment-là pour l'Atlético, ça coûtera 200.
Merci, bonne nuit à toi mon Fredo.
Adios,
à très vite, bisous, ciao ciao. Tiens, vous rappelez également que demain 20h45 dans Transversal, il y aura ce document sur Marco Verratti, portrait du milieu de terrain du Paris Saint-Germain réalisé par Adrien Loreca. Voilà, RMC Sport qui allait sur les traces du prince du Paris Saint-Germain. Les gars, on va passer au e-sport. Hein, et du coup, transition, toute trouvée par Paul Vexio.
Pars du con.
Allez, allez, tire.
Tu vois bien, à chaque fois, mais aucun, putain.
Voilà, c'était une partie, pour ceux qui nous écoutent sur RMC.
C'est l'époque où
partie entre
bon,
Bruce Granek et Daniel.
C'était quand, ça?
C'était peut-être il y a 3-4 ans.
Ou 2-3 ans. T'étais jeune, là.
Ah ouais, non. On a beaucoup joué ensemble, tu sais que c'était mon prof particulier.
Moi, je sais pas, toi, tu changes vite d'avis, hein.
Pourquoi?
Un coup Abdou, un coup Psycho.
Oh, t'es jaloux, toi, dis donc.
Un coup, il te jette, il t'utilise après.
C'est sûr, comme Girouette.
Ah ouais, on est d'accord.
Oui, c'est Girouette.
J'ai eu la possibilité d'avoir les 3 meilleurs.
Et t'as préféré qui?
Ah non, je peux pas dire. Vous êtes tous les trois.
Visiblement, il y a un préféré.
Je peux pas aimer les trois, je les aime bien.
C'est pas ce que t'as dit, t'as dit je peux pas le dire.
Non.
Oui, ça veut dire qu'il y en a un quand même que tu préfères.
Mais non, pas du tout.
Bruce Granek est donc avec nous dans l'after, triple champion du monde FIFA.
Non, toi, il y a des trucs que t'as pas bien voulu m'apprendre, toi. Des secrets que tu voulais pas trop me donner.
Il est rancunier, en plus.
Non, il y a des
secrets. C'est quoi, dis-moi, parce que...
Mais crevez l'abcès, dites-vous les choses. Faut que le groupe vive bien, là.
Après, tu les donnes pas comme ça. Je sais même pas de quoi il me parle. Non. C'est juste que j'ai vu peut-être à un moment il était limité, je me suis dit ça a rien d'aller plus loin, tu vois, je me suis dit
il va pas comprendre.
On va se contenter des bases.
Ouais, la base.
Bon. Donc je disais triple champion du monde FIFA, champion du monde PES. Alors Daniel dit que c'était d'un autre temps, mais qu'est-ce que tu fais maintenant toi? Quel est ton parcours d'ailleurs, Bruce?
Mon parcours depuis le début quand j'ai fait la compétition.
Ouais, enfin pas depuis que t'es enfant, on est pas obligé.
Ça va être un peu vieux. Non, mieux qu'il nous parle du présent.
Non,
là,
mais
de l'explosion de ce qu'il fait maintenant.
À l'âge de, on va dire, de 16-17 ans, je me suis lancé dans la compétition sur PES à l'époque. Donc c'était PES 4. Sur PES 5, je suis devenu champion du monde. Et donc ensuite, j'ai eu la chance d'enchaîner par un... Bon, j'ai fait vice-champion du monde sur PES 6. Après, il y a eu un tournant. FIFA est devenu meilleur que PES, donc j'ai fait la bascule comme tout le monde. J'ai eu la chance que ça se passe très bien assez rapidement sur FIFA 9 en étant champion du monde. Et puis par la suite, j'ai aussi gagné d'autres titres, FIFA 12, FIFA 13, etc. Et puis après, il est venu le moment, je pense que Jérôme connaît bien ça, le moment où tu sens que t'es moins compétitif et c'est peut-être le moment de stopper. Parce que tu te sens moins fort et ça sert à rien de forcer, t'as pas envie de faire les années de trop. Et donc j'ai décidé d'arrêter et puis par la suite je me suis lancé notamment sur Twitch à faire des lives, donc les gens me voient, je parle avec eux, je joue, donc je peux leur donner des conseils.
Alors Twitch c'est quoi? C'est un réseau social, c'est ça?
C'est une plateforme de streaming. En fait, d'accord, on me voit en train de jouer, on me voit à l'image par le biais d'une webcam, et puis il y a le chat, et puis ça me permet d'interagir avec les gens, en fait. Donc c'est super cool.
Et ça, c'est des trucs qui on se rend pas compte si on est vraiment dedans et tout, mais ça cartonne, ça marche du tonnerre.
C'est monstrueux, ouais. Après, ça dépend. Il y a des streamers qui sont, mais c'est assez incroyable. Il y a des audiences, ça fait pour des grosses compétitions et tout. Il y a plusieurs millions de personnes sur un stream. Hein. C'est en train de monter. Et c'est vrai
par rapport à quand toi tu faisais les championnats du monde, par exemple sur FIFA, aujourd'hui. Tu les suis, les championnats du monde, les mecs, y a beaucoup plus de participants, il y a plus de monde qui suit qu'à ton époque, ou c'est sensiblement la même chose?
Ouais, il y a de plus en plus.
Le marché, il est en pleine explosion là en ce moment là.
Ouais, il y a de plus en plus de joueurs en fait, donc forcément ça s'est professionnalisé. Et maintenant il y a des clubs, les vrais clubs de foot. Chaque club a un représentant. Bah par exemple il y a l'Orange Ligue 1 que je commande sur Bein, où en fait chaque joueur représente un club de Ligue 1.
Mais alors, donc, ça, c'en est où? Parce que quand ça a été annoncé, l'e-sport avec les championnats, on a eu le sentiment à un moment que ça allait être la grosse explosion. On nous a vendu des projets avec des mecs qui viendraient à la limite dans des tribunes regarder le représentant de son club qui était dans un championnat. Paris était parti à fond dedans, je crois que Lyon aussi. Et j'ai l'impression derrière, il y a eu un coup de frein. On en est où de ce truc-là?
Non, ça continue à se développer. Il y a de plus en plus de clubs.
Mais le PSG, c'est pas retiré, c'était quoi l'histoire?
Non, j'ai entendu. Non, ils sont pas retirés. Ils ont toujours leur joueur. D'ailleurs, ils ont un joueur qui s'appelle Dax, qui a gagné la E-Nation. Et donc c'est un tournoi, c'est un championnat du monde par équipe, et donc ils avaient leurs représentants, ils ont été champions du monde, ils ont battu notamment l'Argentine en finale. Donc non, ça continue à se développer.
C'est toujours en 1-1 ou parce qu'à un moment on parlait aussi d'équipes où tu pouvais jouer carrément les 11 mecs qui étaient dirigés par 11 gars.
Ça c'est un petit peu en retrait, c'est vrai que toutes les compètes quasiment c'est du 1v1, mais c'est vrai que le 11v11,
ça a pas percé. Alors c'est ça
qui faisait allusion. C'est qu'en fait s'il se passe des choses, notamment à l'étranger, en Allemagne, ils font des compétitions, en fait ça plaît beaucoup, parce que chacun par exemple moi je vais être, je sais pas, ailier droit, chacun dirige un joueur.
C'est ça,
il y a de l'intelligence tactique, etc. S'il y en a un qui fait le con, bah forcément c'est tout le monde qui morfle. Donc ça plaît à tout le monde. Ce mode est très apprécié par la communauté. Après, le problème, c'est que c'est au niveau de la pratique. C'est que forcément, il te faut 22 postes pour jouer. Si tu fais un tournoi en vrai, il te faut 11 consoles, 11 télé par équipe.
Oui, ça devient d'un point de vue logistique difficile et tout.
Mais je pense que l'avenir, ça peut le devenir.
On n'est pas encore... bon, si on suit ton émission, je pense qu'on est informé sur tout ça. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a le championnat d'e-sport, ça existe avec un représentant par club. Il y a combien de clubs en
championnat?
En fait, dans l'Orange Ligue 1, par exemple, t'as les 20 clubs de Ligue 1.
Les 20 clubs sont représentés par un mec.
Il y a des qualifs, en fait, et puis après, t'as le vainqueur PS4 et le vainqueur One qui vont représenter
le club. Qui a gagné le championnat cette année?
Bah là, il y a les playoffs, justement.
Il y a des playoffs.
Ça sera le 27 mai, donc il reste plus que 4 clubs. Donc, par exemple, il y a Monaco, il y a le PSG, il y a Caen et il y a Dijon. Voilà, c'est les 4 derniers représentants.
C'est galère, mais Dijon,
la saison, elle est...
T'as un mec qui vient, un mec qui est de Caen et un mec de Dijon, ils sont forts au jeu et ils ont réussi à mettre leur équipe dans le playoff. C'est drôle, ça.
Par exemple,
mais ça, c'est lié au club de Ligue 1, au vrai club, justement. Ces joueurs-là, ils sont liés au club de Dijon, du PSG.
En fait, en gagnant ces qualifs, ils ont gagné le droit de représenter le club. Après, il y a des joueurs professionnels qui sont salariés. Je parlais de Dax, par exemple, joueur du PSG. Lui, il représente officiellement le PSG, par
exemple. D'accord. Mais il représente le PSG, sur quoi? Donc, sur le championnat de France.
Il y a aussi il y a des tournois partout dans le monde. Il y a un circuit qui
reprend. Mais le mec de Caen, c'est quoi à peu près les créneaux là-dessus? Le championnat, par exemple. Ouais. Quand on parlait du championnat de France, c'est sur quoi? Combien de semaines?
Ouais, le championnat de France, ça s'éteint. En fait, par exemple, il y a une session au printemps, il y a l'hiver, etc. Donc il y a plusieurs sessions. Et après, au niveau mondial, il y a des tournois tous les 15 jours, toutes les semaines. D'accord. Et c'est comme le circuit ATP, tu prends des points, tu montes
d'accord,
dans le
classement. Okay.
Et il y a de plus en plus de cash price en jeu, c'est EA qui est derrière directement.
Mais Bruce, le mec de Caen, il joue pas avec l'équipe de Caen.
Non, après c'est sur FUT. Donc en fait, tu peux avoir Neymar à Caen.
Mais d'ailleurs, ils ont tous les mêmes joueurs
sur un pied.
Ils ont tous,
pour être sur un pied.
Non, mais ils ont tous Mbappé, par exemple. Et d'ailleurs, t'as Mbappé contre Mbappé. C'est souvent ça, d'ailleurs, l'histoire. Voilà.
Exactement. Donc, après, c'est peut-être la limite.
Ça m'énerve un peu, ça.
Moi, je suis un peu comme toi. Moi qui suis très football manager, très premier degré là-dessus.
Bah, quand t'as Neymar qui joue contre Neymar, dans les deux équipes,
tu vas avoir des matchs marres.
Mais c'est logique en même temps.
Bah, le truc, c'est celui qui joue avec Caen, dans ces cas-là, il est mort dans le film. Donc, c'est pour être sur un pied d'égalité.
Non, mais ce qui est dommage, c'est que les mecs.
Il est mort dès le générique,
Non, mais ça devrait être quand même PG, tu vois, quasiment. C'est-à-dire, tu devrais avoir Neymar par championnat. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais celui qui a Neymar, il a un avantage sur tout le monde.
Oui, mais ils ont tous le même budget.
Le joueur, il est plus fort.
Mais ça, MPG, ils sont forts, tu vois, là-dessus. Genre, ils ont tous, je te dis une connerie, 300 millions de budget, et ils ont 300 millions pour recruter une équipe. Donc tu peux, c'est le mec qui fait la plus grosse enveloppe, tu vois, à la Serie A à l'ancienne là, avec l'histoire des enveloppes, et tu la joues. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme une autre, mais
c'est compliqué à mettre en place.
Ouais, c'est compliqué.
Enfin, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, hein, j'aimerais que chaque joueur, mais c'est compliqué.
Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. On va accueillir, tiens, Aubin dans quelques instants. Juste deux trois questions juste avant. Est-ce que ça a une influence sur les vrais joueurs, les jeux vidéo, enfin notamment les FIFA, etc. Je sais que les mecs gueulent souvent par rapport à leurs notes, par exemple.
Ouais, souvent, bah c'est sûr qu'ils regardent, parce que par exemple,
ils téléphonent à Bruce dans la nuit, hein, ils pensent que c'est.
Mais t'appelles-toi vraiment les mecs?
Mais non, ils appellent hier.
Mais peut-être que lui, il se dit, peut-être qu'il connaît des mecs chez eSports.
T'as jamais trouvé comment trafiquer les notes encore?
Ouais, c'est pas possible, non. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas au courant. J'aimerais bien, c'est un tuyau. Non, mais souvent, en fait, ils contactent, ils mentionnent, par exemple, sur Twitter, il y a directement, ouais, ma coupe de cheveux ou mes notes, par exemple, tu vois la carte de Benzema cette année. C'est vrai que ça fait peur, quoi. Il est sous-côté complet dans le jeu, enfin.
Combien il a? Il a quoi comme note?
Non, mais il a 84-85 de note générale.
Ouais.
Mais je veux dire, par exemple, si tu regardes les stats, un Mariano Diaz, il va être meilleur que lui, tu vois.
Donc, ouais,
ouais.
C'est difficile.
Parce qu'il y a des stats. Pourquoi les mecs ont fait ça? Parce que globalement, dans 90% des cas, c'est pas vraiment contestable, c'est plutôt bien foutu. Pourquoi parfois il y a des trucs comme ça où tu passes au travers?
Non, mais il y a parfois, tu le sens par exemple que la première ligue, les joueurs sont souvent un peu cheatés, ils aiment bien les booster pas mal, ouais, parce que c'est un championnat et des joueurs qui sont appréciés, puis la communauté anglaise est assez puissante sur FIFA.
Ah,
et
oui,
du coup, les joueurs de première ligue en général, c'est très très fort.
Et on a retrouvé l'affiche de Jérôme Roten. Alors, feu d'ailleurs.
Ça, c'était PES, ça.
Ah, je sais pas du tout.
Ouais, c'est PES 2008.
Ça, c'est Paul Vexeux qui nous l'a retrouvé. C'est vrai qu'ils t'ont fait des gueules dans les jeux vidéo, toi.
Non, mais ça date aussi.
Oui, oui, mais c'est, n'empêche que, remarque, encore celui-là, ça va.
Encore, c'était ça va, quel, c'est à être modélisé.
Ouais, mais c'était.
C'est PES quoi, c'est quelle année, ça, Bruce, tu te souviens, non?
Bah, c'est pas vers PES 2008, bah, par rapport aux joueurs qu'il y avait.
Ah, en jaquette. Ça, c'est jeu de 2005, ça. Club football,
Mais dis-moi, quel est le joueur qui a la meilleure note?
Moi, je crois, à l'époque.
Cristiano, Messi, c'est toujours les deux qui ont la plus grosse note. Mais par exemple, Messi dans le jeu est pas à son niveau par rapport à la réalité, parce que dans le jeu, il tient pas sur ses jambes, il est pas assez physique, alors qu'en vrai, c'est dur de le bousculer. Et dans le jeu, tu
pourquoi
ressens ça.
Ils ont jamais amélioré ce truc-là.
Ça, je t'avoue que j'ai jamais compris. Messi dans le jeu.
Non, mais le joueur qui a la plus grosse note, c'est quand tu prends les cartes vintage là et tout, c'est Maradona. Il a 97, Maradona.
Non, maintenant, il y a même Pelé, il y a une carte à 99.
Ah ouais?
Pelé, il a 99?
Ouais. Ils ont fait des cartes moments qui correspondent
j'ai vu ça. Ouais.
Puis après, il y a les cartes.
J'ai vu Maradona 97.
De l'équipe de l'année, par exemple, Cristiano et Messi, on sera à 99, tu sais, par rapport aux 11 de l'année, etc. Donc après, c'est des cartes monstrueuses, quoi.
On poursuit dans quelques instants avec toi, cher Bruce Granek. On sera avec Aubin. Si vous voulez parler e-sport, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live également. On a quelques petites pépites également pour vous. On va continuer de développer sur ce sujet. Quelques infos du jour à venir également dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, Jérôme Roten et Bruce Granek est avec nous. Il est question de e-sport ce soir dans l'after. On vous rappelle, dans quelques instants, on va débuter également le 11 type de la Ligue 1. On va débuter par les gardiens ce soir. On fera bien sûr les latéraux, les défenseurs durant la semaine également. Tiens, et l'année dernière, t'étais venu pendant le mondial, je crois, Bruce.
Ouais.
Et je crois qu'il y avait un petit défi de lancer entre Daniel et toi, tiens.
Et je lui ai lancé un petit défi, je sais pas s'il l'a encore en tête. On va le relancer en direct.
Allez.
Tu veux le faire
maintenant?
Bah oui, vas-y.
Qu'on le fasse sur FIFA 20.
Je lui ai demandé.
Mais vraiment, dès qu'il sort
battre en jouant avec une seule main. Ah. Et lui, évidemment, a tout de suite dit oui.
Tu peux le faire, ça.
Ouais, enfin, en réfléchissant après.
C'était il y a un an, les mecs, hein.
Il y a quelques techniques.
Attends, c'était pile il y a un an, parce qu'on était à Marrakech pour le Sismix. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on sera encore ensemble là-bas. Et ça fait un an, on l'a pas fait, ce truc-là.
On rappelle, faut que tu le battes avec une main.
Réfléchi. Le soir, on lui a proposé ça. On est allé le voir et tout. On l'a chauffé avec ça. Il était là. Il fait, laissez-moi un petit peu de temps pour répondre. Il a réfléchi et après, il a dit, bon, ok.
Tu relèves le défi ce soir ou pas?
Un moment et comme ça, on s'enterre.
Mais tu relèves le défi?
Oui, moi, oui, y a pas de souci.
À une main, tu le tapes.
On va mettre un petit peu à jouer, ne serait-ce qu'à deux mains, hein, parce que.
Non, mais on se dit. FIFA 20, comme ça, tu le sais, à chaque début de jeu, le jeu
change. Je viens à peine de me mettre à FIFA 19 alors qu'on est au mois de mai.
Mais toi, tu te mets à la fin du jeu, en fin de saison.
Il est très bon sur le 2013. Hein.
Ouais, c'est
toi. World Cup 94.
Ouais, c'est ça.
Non, moi, c'est mon premier.
World Cup 94.
T'en souviens de celui-là?
Ah, c'est avec les gros bonhommes, là?
Ouais. Ou
sur Nintendo, là? Tu faisais le tir de
l'ex. Exactement. Où tu mettais des coups de... Enfin bref, c'est mon premier souvenir.
Vous l'avez eu à quelle année au Portugal? 98?
Ah, je l'ai eu en France, moi, celui-là aussi. Noël 93.
Mais faut que ce soit filmé, notre défi.
Ouais, bien sûr.
On verra des équipes RMC Sport. Enfin. On ferait ça sur Twitch. Tiens, on rappelle que l'émission d'ailleurs est streamée sur ton compte Twitch aussi. Hein,
exactement, sur la chaîne Twitch. Ouais.
Voilà, moi je balance des Twitch.
Ah, si tu veux, attends, d'ici fin juin, on se le fait sur FIFA 19, on n'en parle plus, on le boucle ce truc.
Si tu veux, si tu veux, tu me dis quand t'es prêt.
Il est ambitieux, Daniel, là.
Ah non, mais là en plus, j'ai fait 2-3 matchs récemment, je me suis un peu remis.
Voilà. Il a fait 2-3 matchs, il s'est fait un champion. Il s'est fait
un champion du monde face à lui, t'inquiète.
Passe, je reprends un petit peu.
Il a pris
la marque. Alors on accueille Aubin, les gars, qui nous a appelé au 32-16 justement pour parler e-sport. Salut Aubin.
Salut Nico, salut Jérôme.
Salut Aubin.
Et bien sûr, Mister Yolo.
Merci, salut.
Alors tu voulais parler de quoi Aubin exactement?
Bah écoute, je t'ai pas dit bonsoir Bruce, mais c'est salut. Surtout à toi que je voulais m'adresser. Alors moi je suis un gros joueur de FIFA, enfin je joue beaucoup de matchs, je dis pas que je suis bon, mais je joue beaucoup de matchs depuis longtemps. J'avais plusieurs questions à te poser. Alors déjà, je pense que le script, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un script, mais à ton sens, j'aimerais savoir à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en place, et
tu peux rappeler ce que c'est ça déjà?
Comment toi tu te contournes?
Alors en fait le script, bon parfois c'est psychologique, on en fait trop, mais c'est quand t'as l'impression que tout est contre toi. Toi tu vas taper le poteau trois fois, le mec en face il va faire...
C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Il va faire une vieille frappe de 30 mètres, ça va être contré trois fois et ça va rentrer et tu finis à 10 tirs à 2 et tu perds le match. Alors pour moi, je pense que oui, il y a un script. Après ça a jamais été officialisé vraiment, mais bon tout le monde en tout cas pense qu'il y a un script.
Ouais, mais ça veut dire quoi concrètement?
Le jeu en fait avantage un joueur par rapport à un autre. Moi mon explication c'est qu'en fait c'est pour niveler un peu les niveaux. Par exemple si moi je tombe 10 fois contre toi, bah logiquement tu vas avoir très peu de chances de me battre. Mais s'il y a le script qui fait que moi bah je vais quasi pas pouvoir marquer et que toi avec peu de choses tu vas marquer des buts, tu vas pouvoir me battre.
Ouais, mais ça comment elle le sait la machine qui est le plus fort et le moins fort à la base?
Ah mais ça peut être random. D'accord. Parce que parfois tu vas jouer, t'as l'impression que tes joueurs, par exemple ton Cristiano Ronaldo, c'est une machine de guerre, tu vas tirer de n'importe où, ça va faire but, et parfois t'as l'impression que t'as un attaquant mais lambda, tu vois. Donc t'as l'impression que d'un match à un autre les stats par exemple changent un peu comme dans PES à l'époque où t'avais la flèche grise ou bleue.
Ouais.
Les statistiques des joueurs, étaient revues à la baisse, ou quand il était en forme, tout était à la hausse. Donc, j'ai ce sentiment-là, en tout cas. Après, voilà.
Alors, donc, ça fait partie des débats philosophiques dans le e-sport, enfin, dans le e-foot.
Je pourrais ajouter que c'est pas une parano du tout pour ceux qui jouent. Tu te rends compte que même pour moi, des fois, je joue, je sens que j'ai le script, mais pour moi. Donc, c'est même pas que t'es parano qui te dit que le jeu, il est contre toi. Des fois, il est pour toi. Tu fais un match de merde, mais tu le gardes, tu le gagnes, et le mec en face, pour toi, il y a un script, et bon, c'est pas officialisé. Très bien.
C'est pas une force obscure qui le met en place, le script.
Non, c'est l'intelligence artificielle.
Le match démarre, tu sais pas comment ça va tourner, pourquoi t'as bol ou pas bol à ce moment-là.
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu random.
Non, c'est en ligne surtout. Ouais, en ligne, je pense que quand il voit que tu alignes 5-6 matchs d'affilée où tu gagnes, il te fout de le script après.
Ton équipe, elle va être claquée d'un seul coup, quoi.
Tu fais les matchs, ouais.
Bah des fois, t'as l'impression que oui, tu vas avoir une série de matchs où tes joueurs, ils sont pas terribles.
Tu vas faire 5-6 matchs et après, tu vas te retrouver à plus pouvoir avancer. J'ai une dernière question concernant. Ah non, j'ai encore deux questions, mais surtout une importante concernant la défense, parce que pour attaquer, c'est assez intuitif. J'ai envie de te dire, attaquer, c'est assez facile. Mais défendre, c'est quoi pour toi la méthode la plus efficace, la plus simple de défendre? Si tu peux la décrire en quelques secondes.
Ouais, alors c'est assez compliqué ces derniers temps parce que c'est vrai que le jeu offensif est assez avantagé.
J'ai filé les méthodes, mais je les ai oubliées.
Il y a beaucoup de buts. Alors pour bien défendre, déjà il y a la formation. Moi j'aime beaucoup le 4-2-3-1. Au moins t'as deux mecs devant la défense, c'est la sécurité. C'est une formation qui est beaucoup utilisée à haut niveau. Au moins voilà, t'as en place un minimum. Et puis après faut jouer aussi avec la tactique perso, bien évidemment. Tu sais, tu peux jouer sur le pressing, à quelle hauteur, etc. T'as tous ces réglages.
Okay.
En fonction de ton style de jeu, ça peut être bien. Et en fonction aussi du style de jeu de ton adversaire. Hein. Si tu vois qu'il balance beaucoup en profondeur, essaye de jouer plus bas, etc.
Juste une parenthèse par rapport à ça. On parlait tout à l'heure des équipes justement de e-foot qui existent également. Il y a des entraîneurs aussi.
En fait, c'est calqué sur le sport traditionnel.
Hein. Il y a des mecs qui entraînent les joueurs les joueurs quoi. Génial.
J'avais les entraîneurs moi.
Non mais je trouve ça génial.
C'est beaucoup mental aussi, tu vois, au niveau parce que le joueur connaît très bien le jeu. Forcément, il connaît tout, mais c'est un soutien moral aussi. C'est important d'avoir quelqu'un. Moi.
Mais genre le mec, il t'explique quoi? Enfin, il t'explique quoi concrètement l'entraîneur?
Mais c'est qu'en fait, comme je dis à chaque fois, t'es dans ta bulle, donc tu te rends pas forcément compte de certaines choses. Tu vois, t'es dans ton match, il y a beaucoup de paramètres à gérer, donc des fois la petite phrase au bon moment peut avoir son importance.
Mais le mec, il donne des conseils aussi par rapport à l'adversaire, des choses comme ça.
Ouais, ça peut être ça. Ouais, il peut me dire, essaye de jouer plus en profondeur ou garde un peu plus la balle, etc. Tu vois, c'est un peu calqué sur. Non,
mais c'est vachement pointu hein, quand ils jouent à leur niveau.
Ouais, c'est pas
nos matchs à nous. Hein,
c'est beaucoup mental hein, après.
Hein. Là, c'est l'organisation, ils savent où mettre le ballon, machin. Moi. Je crois que je joue bien quand je fais 4 passes de suite au milieu, plus une en profondeur.
Et là, t'es content?
Ah, je suis content quand je fais une action comme ça, là. Je suis waouh! Après, quand tu les vois jouer eux.
Ah, c'est un autre sport.
Bah, justement.
Tiens, est-ce que c'est un sport d'ailleurs?
Bah, c'est sûr que c'est différent. On va dire, c'est moins physique, hein, ça c'est sûr. Mais, mentalement, il y a beaucoup de similitudes parce que tu passes par toutes les émotions. C'est très dur à gérer. Parce que le stress, c'est énorme, surtout sur un jeu comme FIFA où tu sais que la moindre frappe, enfin, c'est plus intensif qu'un match de foot. Parce que ça dure 10-15 minutes. Je veux dire, dans la tête, tout va beaucoup plus vite. Tu vois, un match de foot, c'est plus posé, etc. Donc, ce qui fait que tu passes par toutes les émotions et tu sais que une demi-erreur, ça peut faire but, mais tout de suite. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc oui, c'est un sport, c'est différent, mais pour moi, oui, c'est un sport.
Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, vous?
On fout, moi, c'est comme quand on demande si le poker est un sport et tout.
Ouais, c'est un peu.
Enfin, à la limite, on s'en fout un peu, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il est indéniable que mentalement, ça demande une grande concentration.
Alors, à un moment, ça posait question, c'est plus par rapport à des, on va dire, à une certaine réglementation, notamment pour les contrats, justement, etc. Il y en a certains qui se posaient des questions à savoir si c'était des sportifs ou pas, les joueurs de e-sport aussi. Parce que les Américains avaient lancé le délire. Tu sais, pour des questions d'encadrement juridique, quoi, si tu veux. Les
voilà,
contrats,
oui.
Etc.
C'est considéré comme ça, maintenant.
Ouais.
À quel âge, là, les mecs, toi, quand tu es bon, là, t'es avec quel âge? Quand t'étais champion du monde, t'as quel âge?
J'ai mon premier titre, je venais d'avoir 18 ans.
Ah oui, putain, c'est vachement jeune, quoi. Et comment, des mecs qui ont 18, 20 ans, on est en train de parler de, ils bossent le mental et tout, mais comment? C'est en fait, ils bossent la répétition des trucs.
Ouais, c'est ça, parce que
comment, à cet âge-là, qu'est-ce que t'as comme expérience pour bosser?
Moi, franchement, ma première année sur PES4, j'ai fait une super année. J'ai été ultra régulier, j'ai gagné beaucoup de tournois, je suis arrivé en Coupe de France contre des mecs qui avaient 10 ans, qui avaient 35 ans, qui avaient plus de 10 ans de plus que moi. Et le tournoi, j'ai perdu, pas par le niveau, mais par l'expérience.
C'est-à-dire?
Par l'expérience, parce que la pression, etc. Là, c'était un one shot, c'était le tournoi où fallait pas se louper. Et je sentais que ces mecs-là étaient beaucoup plus expérimentés.
Alors, tes doigts glissaient sur la manette, quoi, limite. C'était fatigué.
Je jouais pas aussi bien. Et c'est la phase d'apprentissage. Et l'année d'après, j'étais passé par là. Et du coup, j'ai pas refait les mêmes erreurs. Et voilà. Donc, tu progresses aussi et aussi comme ça.
Tiens, Aubin, merci d'avoir été avec nous. Tu sais quoi, Aubin? On t'offre 5 places pour aller voir le match entre le PFC et le Gazélec vendredi à 20h45. 2 places, pardon, pas 5.
Très bien. Moi, je suis à Paris aussi. Donc
voilà, nickel. En plus, match important. Hein.
Merci,
le PFC
Nico.
Qui vise une place en barrage pour la montée et le Gazélec qui joue pour pas descendre. Bonne soirée, Aubin. À bientôt.
Ouais, ce serait cool pour une fois qu'en France, on ait deux clubs en Ligue 1 à Paris. Quoi. Ça serait génial.
Ouais. Là, c'est quoi? C'est PFC Gazélec.
Ouais. Non, mais là, il y a un vrai enjeu dans ce match aller, Aubin. Merci.
Il faut voir si le PFC fait le même cadeau qu'au match aller, quoi.
Ouais, mais là, je pense qu'ils ont pas de cadeau à faire. Du coup, ils ont les barrages à jouer et la montée.
À l'aller, tu te demandes ce qui s'est passé? C'était contre le Gazélec. Il y a une autre équipe d'Ajaccio dans le championnat de Ligue 2.
Il y a la CA, ouais.
Ouais. C'était contre la CA. Je sais plus, l'un des deux, il y avait eu gros cadeau quand même du PFC.
Je m'en souviens pas. Je t'avoue, je sais pas.
Comment ça?
Non, mais je m'en souviens pas, Daniel, je vais pas te mentir.
Tu te souviens pas une histoire, les déclarations du président du PFC qui est corse, qui avait dit,
Je crois que c'est le Gazélec d'ailleurs, non?
Bah, bref.
Le Gazélec, ils sont en difficulté, de toute façon, donc.
Merde, qu'est-ce que je voulais dire déjà?
Bah, tu parlais que...
Toi, t'as vachement joué, toi.
Ouais, j'ai joué. Ça faisait aussi partie de ma préparation d'un match, en fait. Non, mais c'est vrai.
Enfin, du coup, c'était pas vraiment de la préparation, alors.
Bah, pourquoi?
Ça te faisait coucher tard, non, ces histoires-là?
Non, mais ce qui est... La ressemblance, c'est pour ça que j'aimais, outre le fait qu'il y a une compétition entre plusieurs mecs dans le vestiaire et surtout quand on est en mise au vert, répéter en fait moi je me voyais quand je joue et ça m'arrive encore hein, je joue avec mes enfants de répéter les phases de jeu que j'aimais sur le terrain en fait. Donc je passais sur les côtés, je débordais, je centrais. Voilà ce que j'aimais faire et ce que j'ai toujours aimé faire à FIFA ou à PES en fait. Mais donc justement par rapport à ça, ce que j'y pensais, bon après voilà, mais toi qui a été joueur pro et tout, je me suis toujours dit le 11v11, ça peut-être même intéressant pour des clubs pro parce que bon, il y a pas de risque de blessure et tout, mais pour répéter les gammes parce que chacun contrôle un joueur au niveau du placement, du pressing, et je me suis toujours dit bon alors peut-être que je me trompe hein, que ça pourrait peut-être
Dans l'aspect tactique, tu veux dire?
Ouais, dans l'aspect tactique, au niveau du pressing, être synchronisé, etc., couvrir l'autre. Et je me suis dit, au moins, il n'y a pas de risque de blessure.
Mais ça, logiquement, ils doivent le faire sur le terrain.
Ouais, c'est ça, tu le fais.
Oh, mais t'as les séances vidéo, c'est ça que veut dire Mousse.
Non, mais en fait,
ça ferait des séances vidéo un peu plus interactives, quoi.
Ouais, mais tu le fais sur le terrain parce que t'as forcément des distances à respecter.
Après, si tu le diriges avec
mal à prendre compte.
Ouais.
Sur la télé, t'as peut-être le sentiment de bouger le gars et de peut-être comprendre que tu dois.
Et dans le foot, ce que je veux dire, quand tu fais un travail tactique, comme tu le dis, il y a aucune raison que tu te blesses. Tu fais pas un travail tactique à 100%, quoi.
Oui, oui.
Tu fais un travail tactique tout dans la lecture du jeu, dans le mouvement des joueurs, défensif, offensif, ce que l'entraîneur veut mettre en place et tout ça. Et c'est souvent des phases arrêtées. Tu vois, le jeu est souvent coupé.
Avec quel entraîneur t'as bossé le plus tactiquement?
Tactiquement, je pense Guy Lacombe.
Ah ouais?
Ouais.
Où tu bossais les phases de jeu arrêtées à l'entraînement, les mouvements synchro.
Guy Lacombe, alors après moi le rapport était un peu conflictuel, un peu beaucoup même sur la fin, mais c'est un super coach. De ce côté-là, il y a pas de problème. Ce qu'il veut mettre en place, c'est très défini, c'est très calculé. Je me suis régalé.
Après ça se voyait pas tout le temps.
Non, le problème c'est que ça se voyait pas parce que il était
bah attends,
c'est
bouge
un
pas.
Ouais, vas-y.
Il était comme ça, regarde. Voilà.
Et bah, ça y est, la un peu trop sanguin, un peu trop.
Et celui avec lequel il y avait le moins de tactique. Le moins de travail tactique où tu te demandais putain, mais on fait quoi à l'entraînement?
Ah, franchement,
c'est dire.
Je me sens emmerdé, là.
Non, ouais. Non.
Mais si tu le sais, je te connais.
Non, déjà, je vais te dire, c'est pas parce qu'il est à l'étranger, mais Walter Smith, qui était l'ancien sélectionneur d'Écosse,
Rangers.
Qu'on avait aux Rangers.
Ah ouais, mais non, c'était... mais là, c'est bon.
Non, mais c'était
quatre. Connais pas, pardon.
C'était, non, mais c'était, bah oui.
Pourquoi
c'est moins marrant. Ben non, mais c'est toujours les mêmes séances. Et puis tu travailles pas. Déjà, il venait quand il avait envie au bord du terrain, il restait dans son bureau, il faisait trop froid, donc il faisait aucune séance. C'était le manager.
Quoi, vous faisiez quoi des jeux de ballon,
des 7 contre 7, 3 équipes.
C'est le tournoi de la presse.
Tu t'échauffais autour du terrain, là, chacun. Et puis après 7 contre 7, bon, ben, c'était ça. Non, mais en France. Pourtant, il nous laissait libre.
Allez, dis-le.
Non, mais je pense vraiment que Laurent Fournier, on travaillait quasiment pas tactiquement. C'est plus lui, mais c'est pas une critique parce qu'à l'arrivée, l'équipe, elle roulait quoi. Elle marchait bien. On était deuxième du championnat. On gagnait tout à domicile. On avait du mal à l'extérieur. Mais non, Lolo, oui, un peu. Après, non, tactiquement. Excuse-moi, je l'ai oublié parce que c'était. Mais à 3, Alain Perrin, un magicien.
Ah, il bossait, tactiquement.
Ah ouais, ça c'est franchement. Vrai. Et je suis très content, tiens, ça me permet de parler de lui parce qu'il arrête.
Alors il quitte Nancy, ouais, Nancy, ça a été officialisé aujourd'hui. Ouais. Mais il a sauvé le club de la descente.
Ouais, hein. Et puis de quelle manière? Parce que c'est une équipe qui jouait bien. Hein. Moi, j'ai regardé les matchs de Ligue 2. Nancy, ça, ils allaient droit en national et il les a relevés.
Bah, il arrivait, ils étaient derniers.
Et ça a toujours été un coach très intéressant dans l'animation de ses séances et tactiquement.
Voilà. Juste pour finir avec le e-sport, Bruce, est-ce qu'il y a des joueurs professionnels, des footballeurs pros, qui sont hyper bons dans les jeux vidéo, qui pourraient être d'ailleurs professionnels dans le e-sport?
Ouais, alors il y en a un, vu que bon, j'aime beaucoup le FC Nantes, il y a Valentin Rongier, assez monstrueux.
Ah ouais, vraiment?
Il est incroyable.
Ah ouais, il est fort?
Très 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 fort.
Genre, tu es quand même pas plus fort que toi.
Bah, il y a pas beaucoup d'écart, hein, je te dis.
Ah ouais.
Je pense que c'est un mec, si demain ça se fera pas, mais s'il voulait se consacrer à ça, il pourrait devenir pro. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, les joueurs pros, j'ai eu l'occasion de jouer contre pas mal de joueurs sur FIFA, et les mecs, ils ont des facilités. Par exemple, j'ai joué contre Benzema, tu sentais qu'offensivement, il combinait bien, dès qu'il fallait taper, il tapait bien, je laissais la bonne zone, premier poteau, machin, tu sentais l'instinct du tueur,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Un défenseur, il défendait bien, etc. Tu vois, je jouais contre Matuidi, tu sentais que lui, le pressing, machin, je sais pas, tu ressens les mêmes qualités que sur le terrain.
Ah ouais, c'est vrai, c'est assez
incroyable.
Il y en a d'autres comme ça, non? À part Rongier?
Il y a Danzé, monstrueux aussi.
Ah ouais?
Ouais. Très très fort.
Lui, ça tombe, il arrête.
Mais tu me disais qu'il était plus fort à la console que sur le terrain.
Non,
arrête. Tu me disais ça
tout à l'heure.
Bah oui. Daniel, t'as bien entendu.
Ça se passe. Vous êtes cool de dire les trucs.
J'ai jamais dit ça.
C'était du off. Non, mais c'était du off, Jérôme. Ça se dit pas à l'antenne.
Oui, pardon. Mais bon, il est sympa, Romain.
Vous êtes comme ça ici.
Ah, vous êtes grave. Allez, c'est bon. T'as rien dit, ça va.
On laisse pas les
Je vais balancer des trucs aussi.
Non, mon déconne. C'est des conneries. Tu nous connais. Voilà.
Non, non, c'est des conneries.
Allez. Surtout qu'on touche pas à danser ici, hein. Jérôme Thomas, débrief réalisateur.
C'est vraiment quelqu'un de
très adorable.
C'est pas vraiment une connerie.
Griezmann, je vois super bien.
Ouais.
Griezmann, il jouait super bien. On a joué avec lui sur LCS.
Je te jure que c'est vrai. Jérôme Thomas, touchez pas à danser. Tu vois, je t'avais prévenu.
Ah oui, voilà. Non, c'est Henri qui était monstrueux sur PES aussi à l'époque.
Qui ça, pardon?
Exactement. Parce qu'il paraît Henri,
c'est Henri. Ah oui?
Henri, en fait, il avait la version,
Winning Eleven, bah,
exactement. Exactement. Donc, en fait, qu'on avait des
c'était mieux que PES. Hein.
Bah, exactement. C'était magnifique. T'avais l'impression qu'il y avait 2 ans d'avance par rapport à PES.
C'était encore plus simulation.
Et ils nous ramenaient la console en équipe de France au rassemblement.
La console craquée et tout.
Ouais. et on faisait que ça. Non, mais c'était génial. On faisait que ça. Et ils jouaient très bien. Ouais.
Dans quelques instants, on vous attend au 32-16 pour débuter le 11 type de la saison. On va débuter par les gardiens. Voilà, venez lire votre gardien de la saison. On attend les vôtres également, hein, Jérôme et Daniel. Le tien aussi, Bruce. Meilleur gardien de la saison de Ligue 1. T'as une idée ou pas?
Oui. Ah, il est calé. Ouais.
C'est fait. T'as une idée aussi?
Oui.
Et la réponse, juste après ça.
Voulez-vous danser, grand-mère?
RMC. L'afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten et Bruce Gralec, champion du monde de FIFA et de PES sur console, qui est en direct avec nous dans l'After également. On va débuter le 11 type de l'After, enfin le 11 type, le 11 de la saison de l'After. On débute par les gardiens ce soir. Question simple, qui pour vous est le meilleur gardien de la saison de Ligue 1, les gars? Jérôme, on va commencer par toi, tiens.
Pourquoi par moi?
Ok, bah, on va commencer par toi, Daniel, alors.
Mike
Maignan.
Qui est le gardien de, je crois, la deuxième meilleure défense du championnat. Qui au même titre que la plupart des joueurs de LOSC a fait une super saison et on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'il est même sous-coté. Ça fait pas mal de temps que j'en parle déjà de ce gardien. Je le trouve même cette année, même en progression. J'aime beaucoup. Il y a plus beaucoup de gardiens qui sortent assez loin dans la surface pour prendre des ballons en l'air. Il essaye de relancer vite. Bon, ça fait partie du jeu de l'équipe parce qu'elle essaye de relancer vite en contre. Mais pour moi, c'est lui. Cette année, c'est lui. En Ligue 1, c'est lui.
Alors juste une stat qui concerne Maignan, c'est le gardien qui a le plus fort taux de tirs arrêtés. Voilà, le plus grand pourcentage de tirs arrêtés.
C'est bien la deuxième meilleure défense du championnat,
oui,
il me semble.
Ouais, ouais.
Derrière Nice, qui est pas loin aussi.
Je pense qu'ils doivent pas être loin. Mais d'ailleurs, effectivement, Benitez, j'aime beaucoup aussi.
Alors statistiquement, c'est lui qui casse tout, Benitez. Voilà, il est très bon au niveau des stats.
Benitez, j'aime beaucoup. Si ça avait pas été Mike, j'aurais pris Benitez. Mais je tiens mon petit Mike.
Non, attends, Lille est la meilleure défense de Ligue 1.
Oui, parce que Paris ayant pris des...
Ils ont pris 2 buts de plus.
Des tôles récemment.
Ils ont pris pas mal de buts.
Et Nice est deuxième défense ex aequo avec le PSG. 32 buts encaissés.
Voilà, donc je suis
en 36
jours. Je suis content de voter Mike.
Mike Maignan pour Daniel.
Non, c'est vrai que j'aurais pu le mettre lui parce que il fait une saison à l'image de son club. Et il en est pour beaucoup de cette saison, mais les références, elles sont tout autres de haut niveau. C'est Anthony Lopez. Tony Lopez, cette année, il est remarquable, quoi. Il est remarquable, que ça soit dans le championnat de France, que ça soit en Ligue des Champions. Il a souvent été énorme. Et je trouve qu'il a travaillé son attitude aussi.
Ça s'est vu dimanche.
La moins fédéral,
il a bossé l'étude.
Ouais, mais bon, attends.
Non, si, dans l'ensemble, il a raison.
Et Daniel, tu peux pas retenir. En plus, tu sais, l'animosité qu'il peut y avoir entre les deux Olympiques. Moi, écoute, ça se comprend. Écoute, tu sais, ça fait partie du football. Mais tout au long de la...
Toi, l'arrêt, là, à l'image, on voit un arrêt, là. Pour moi, c'est un arrêt bidon, ça.
Ouais, ben, c'est bidon.
Pour moi, il y a énormément d'arrêts qui sont des sauts de cabri inutiles.
Mais moi, je trouve que...
Après, comme a expliqué d'ailleurs Lionel, Lionel Charbonnier, c'est son style, quoi. Voilà.
Il a un style des fois, il en fait un peu trop, mais il en sort quand même.
Mais je te dis pas, attends, on parle d'un très bon gardien, on parle d'un bon gardien.
Et moi,
je pense que Mike est meilleur.
Et moi, ouais, peut-être, mais moi, j'attends de voir l'année prochaine la chance qu'il va avoir, Mike Maignan, c'est de faire la Ligue des Champions.
Ouais.
Et j'attends de voir comment il va s'adapter, parce que c'est pas du tout les mêmes pressions. Les attentes vont être différentes parce que là, il a surpris tout le monde.
Non, mais là, on parle de l'année en Ligue 1.
Et je m'en fous, moi. Et
ben, on dit pas le meilleur gardien absolu, machin, tout ça. Je te parle de, c'est la saison, sur la saison de Ligue 1, quoi. C'est ça.
C'est sur la saison, non? Tu peux pas.
La saison de Ligue 1. Mais ah, donc, tu peux pas
donc,
en parler.
Donc je
tu
me parle de des champions.
Ah oui, c'est la saison de Ligue 1, il est bon lui. Mais c'est la saison de Ligue 1. Tu vas pas parler des matchs de Lopez en Ligue des Champions, Mike, il les a pas fait les matchs de Ligue des Champions.
Mais c'est pas de ma faute.
Mais c'est n'importe quoi ça. Allez, je te parle de championnat.
Écoute, moi je pense que Anthony Lopez est meilleur aujourd'hui que McMenamin,
c'est tout.
Ben je pense qu'il est meilleur.
Reste pas le football.
C'est ça la phrase. Donc Anthony Lopez,
je sais les gardiens en championnat.
Voilà.
Tu confirmes que je t'ai pas briefé hein.
Non.
Ouais. C'est pas à dire que c'est moi encore. Non, Anthony Lopez pour toi. On vous a posé la question, un sondage sur le compte Twitter de l'After. Je vais vous donner les résultats du sondage. Vous avez été très nombreux à voter ce soir encore. Tu mettrais qui gardien de la saison?
Moi, je mets Benitez. Déjà, il a été oublié du trophée UNFP. C'est vrai qu'il a été, monstrueux. Il a fait une grande saison. Nice est l'une des meilleures défenses. Alors, il y a une bonne défense. Mais lui, il est pour beaucoup. Il y a eu pas mal de clean sheets. Il a arrêté aussi quelques pénalties et vraiment super régulier, une super saison. Donc, voilà. Moi, j'hésitais, avec les deux qui ont été cités juste avant. Mais voilà, une pensée pour Benitez qui mérite aussi, je pense. Comme
alors, nous on a fait un sondage avec 4 propositions.
Benitez pour moi.
Benitez, Lecomte, Lopez, Maignan. Et alors Lopez, vous avez voté Lopez à 35%. Ouais. Devant Maignan, 33%, c'est quand même très serré. Lecomte 17, Benitez 15.
Mais arrête toi.
Déjà que Maignan est 33, c'est une victoire pour moi.
T'as une défaite quand même, t'es juste derrière.
Il y a moins de gens qui regardent.
Mais pourquoi? Ah, donc dans le Nord, il regarde pas.
Bien que ça joue un peu à la popularité, ce truc-là, à la notoriété, voyons.
Mais non, mais voilà.
Que Maignan est 33, ça veut dire qu'il y a quand même 33% des gens qui ont voté qui connaissent bien le foot.
Mais
bien.
Le gardien le plus fort à FIFA, c'est qui?
Gardien le plus fort, c'est souvent la taille qui est utilisée, ouais. Parce que après, ils sont tous assez forts, donc souvent le gardien qui a le plus d'envergure, par exemple, à Courtois, est assez fort, De Rea aussi, c'est un peu plus sûr sur FIFA, même si De Rea,
il fait
nous habitue à faire des conneries.
Ouais.
Tiens, on n'a pas le temps de le faire hier également. Le top 5 du kiff de la Ligue 1 et le flop 5. Je vous rappelle le classement dans le top 5 du kiff. En 1, on a Rennes. En 2, on a Strasbourg.
Rennes est tombé.
Ouais. En 3, on a Lille. En 4, on a Saint-Étienne. En 5, on a Montpellier.
Pour cette semaine, la mise à jour, c'est Lille 1.
Ouais.
2, Strasbourg.
Ouais. 3, Rennes ou Saint-Étienne? Ou peut-être Montpellier d'ailleurs. Il y a Montpellier qui a fait aussi.
Rennes, ils ont gagné la Coupe de France pour eux. Okay. C'est un grand kiff quand même. 3 Rennes.
4 Saint-Étienne toujours ou...
Ah, Saint-Étienne là. Toujours. Ils ont encore l'espoir. Ouais, mais ils ont encore l'espoir d'accrocher entre la 4e place et la 3e place, ouais.
Donc on laisse Saint-Étienne en 4 et Montpellier en 5?
Montpellier.
Ils reviennent bien, Montpellier là.
Ils sont bien. Ils ont bien kiffé.
Sauf que Lille, premier, après, on peut. Mais ouais, Lille numéro 1, oui.
Ils ont numéro 1,
toute la saison, s'est régalé.
Et le flop 5 du kiff?
Alors, pour l'instant, le flop 5, on a le PSG en 1, Marseille en 2, Lyon en 3, Monaco en 4, Guingamp en 5.
Ça a un peu bougé, là. Je pensais OM en 1.
Ouais.
Là, ils sont en train de se faire une fin de saison abominable, là. C'est affreux.
Monaco aussi, ça pique, là.
Monaco, ça pique. Moi, numéro 2, Monaco.
Ouais, moi aussi. Je pense qu'ils prennent la deuxième place, Monaco, parce qu'ils sont en train de se taper un
Paris,
intégral.
Paris en 3.
Ils méritent.
Avec Lyon, dans la foulée. Lyon, ils sont un peu rassurés.
Ils n'étaient pas Guingamp, parce que là, c'est officiel, ça y est.
Ça leur a fait un petit kiff de battre
Marseille. Ouais, mais Guingamp, tu n'attends pas.
T'attendais rien.
Non, je te parle de Guingamp par rapport à Lyon.
Plus loin, Guingamp, c'est différent.
Ouais, c'est différent. On laisse Lyon 4.
Ouais, Lyon 4, ouais, quand même.
Et Guingamp 5.
Bordeaux, non?
Bordeaux, c'est pas mal aussi.
Bordeaux 5.
On dégage Guingamp du flop 5.
Et Bordeaux est pas loin de remonter encore.
Mais oui, de toute façon, là, ils sont Guingamp, ils ont déjà digéré la douleur.
Non, mais c'est ça.
Ils sont ni dans le kiff ni dans le pas kiff, ils sont déjà en Ligue 2 là.
Mais Bordeaux, c'est pas mal quand même.
Donc je répète, flop 5, 1 Marseille, 2 Monaco, 3 le PSG, 4 Lyon, 5 Bordeaux. Donc Guingamp n'est plus dans le flop 5 du kiff.
Non.
Ok. Quelques petites infos du jour, les gars. Il nous reste 3 minutes. Interview de Jacques-Henri Hérault à France Football, cite le président de l'OM. On pensait qu'avec nos bonnes performances de la saison dernière, on allait clairement faire mieux en maintenant le groupe et en le renforçant. De ce point de vue, je ne le cache pas, je suis très très déçu. Il va y avoir pas mal de changements, c'est évident. Nous avons conscience de la situation. Il y a une surveillance du fair play financier, donc on va devoir s'adapter. Alors justement, ces fameuses adaptations, il dit, on sait qu'il va falloir prendre une autre direction, tabler davantage sur des jeunes, ce qui a déjà été amorcé avec Tchaletatsar, Radonjic, ou le temps de jeu accordé à Camara et Lopez. On a toujours prévu de tendre progressivement vers cela pour pérenniser économiquement le projet. Et puis, terminant en disant, enfin, il dit d'autres choses, nous savons aussi qu'à Marseille, nous devons miser sur des joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour le club. Ce sera dans le cahier des charges du recrutement, a déclaré Jacques-Henri Hérault.
Mon Dieu.
Là, souhaitons-lui d'arrêter de se tromper parce qu'on est passé de champions de project à maintenant, ils veulent
des jeunes.
Ça va ressembler à Lille. ouais. C'est Lille Project ou je sais pas quel project c'est maintenant.
C'est Monaco Project.
Mélangé quand même avec des joueurs de caractère. Donc là, on est un peu perdu. J'ai juste envie de lui dire, essaye de, essaye de
trouver. Ça fait flipper, quoi.
Ouais.
Essaye de trouver vraiment le bon project maintenant. Et d'arrêter de te tromper, parce que là, on comprend plus trop, là. Parce que maintenant, il veut plus les vieux avec les gros salaires, mais jusqu'à, cette saison, il en a pris une tonne. Entre Strootman, Balotelli, machin, il a pris les joueurs d'expérience à qui il a donné des salaires de malade. Maintenant, il en veut plus, il veut des jeunes. Où est-ce qu'il va aller trouver les jeunes?
Non, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec les jeunes? Le pire dans tout perdu, ça, c'est l'analyse de la saison et te dire, ouais, on veut des jeunes comme, alors. Là, ça m'inquiète. Alors, Camara, à part les autres, parce qu'en effet, il a montré des choses intéressantes, mais les trois autres, faut arrêter les conneries quand même. Lopez, Tchaletatsa et Radonjić. Ouais. Et c'est un exemple, ça, pour le recrutement. Il s'est planté sur ses... Bah, pas le petit Lopez, parce que le petit Lopez, il est limité.
Il est de la boutique.
Il est là, voilà. Mais les deux autres, c'est quand même...
De toute façon, en plus, c'est bon, il va au Barça, donc...
Il a le profil.
Il a le profil Barça.
Profil, c'est un peu Iniesta, c'est un mélange Iniesta de Xavi.
Ils peuvent envisager une vente à 100 millions.
Écoute,
pour Barça,
il a écarté Sanson dans la course.
C'est une réussite parce que là, ça va être un très gros transfert. Donc, ouais.
Tiens, image également d'émotion qu'on a vécu à Rome cet après-midi. L'annonce du départ de Daniel De Rossi, quand même. Ça, c'est un événement, 36 ans. Alors, qui a déclaré qu'il voulait continuer de jouer, cela dit, qu'un poste de reconversion au sein du club lui avait été proposé. Lui, il en a encore sous la semelle. Il va encore jouer, il a 36 ans.
Ils ont pris Strootman.
Voilà. Avec
les États-Unis.
Il peut
jouer ailleurs, les États-Unis ou un truc comme
ça. Ou à Marseille. Ils ont pris Strootman, De Rossi.
Écoute.
Si Garcia,
il coûterait moins cher, il est libre.
Ah, pour remplacer Maxi Lopez.
Il est libre, parce que, non.
Il est libre. Voilà, les gars. Merci, c'est déjà fini.
Mais une légende du club, hein.
Ah, Daniel Lévy aussi,
ouais. Retraite de Totti.
De Totti, ouais.
Là, derrière, c'est une page qui se tourne.
Le fils spirituel.
Ah, si, tiens, une info, moi, qui me plaît bien, qui va te plaire. Hashtag, pas de gauche.
Oui.
Vous avez vu qu'il y a le nouveau sélectionneur de la Bulgarie ou pas?
Stoïkov?
Non, Balakov.
Ouais. Quel joueur? Tu te souviens pas de lui?
Très, très beau joueur.
Je me souviens pas, tu me dis. Non, mais comment tu peux pas me souvenir de Balakov?
Krasimir Balakov.
C'est ma passion, le football, hein. Non, mais, tu te souviens pas de Balakov? Non, mais t'as pas honte.
Non, c'est vrai, j'ai pas honte.
Et on se souvient d'une équipe qui a ridiculisé l'équipe de France.
C'est vrai. Merci les gars, Bruce Granek, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci
encore.
C'était
sympa. Merci. Bon, on se voit au poker. Hein.
Allez.
Attends, vous avez une partie à vous faire là, je vous signale.
Aussi. Avant, on va partir quelques jours. Hein.
C'est ça.
Au soleil. On va se remettre 2-3 défis, on va essayer de les tenir.
Et ben, amusez-vous bien les mecs. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup Jérôme. Merci Arthur Robert, Quentin Barber. Et puis Max, petit chemin de traverse également. Et qui nous ont aidé à préparer
Dernière info, juste vite fait sur Griezmann. L'Atlético Madrid, ils sont très contents de se séparer de Griezmann.
Ah, voilà. On nous en dira plus demain ou pas?
Un petit peu, allez.
Allez, à débat demain, ça c'est du teasing. Mario!
RMC. L'After Foot.